premier chapitre, on devrait toujours chercher sa jeunesse sous le soleil. On dirait Thérèse, la grosse femme, là-bas, sous le porche, de l'autre côté de la place, Thérèse. Un autre aurait haussé les épaules. Thérèse, impossible, et quelle importance! Mais Jean essuie la buée sur la vitre, le poing fermé, comme le font les enfants. La surprise lui brouille la vue autant que la pluie qui cingle la vitrine de l'estaminet où il s'est réfugié. La grosse femme glisse sur les pavés, perd l'équilibre. Jean tend le bras pour la retenir, réflexe stupide. Quelque chose de liquide lui coule sur les genoux, et ce n'est pas la pluie qui s'égoutte de ses cheveux, mais en un filet hésitant et froid, sa bière qu'il vient de renverser. La serveuse se précipite, ramasse le verre, essuie la table, lui colle un torchon sur les cuisses et lui offre un demi fraîchement tiré en claironnant sur un ton enjoué, marqué du sceau de la curiosité. « Vous connaissez une Thérèse à Montflandrin ?» Il a donc pensé à voix haute. Sans aucune gêne, la tenancière prend appui sur son épaule, se penche pour regarder vers la place. Jean se détourne, cherche à se dégager. Il a horreur des familiarités, et surtout qu'on se mêle de sa vie. L'échafaudage décoiffé des cheveux blonds lui chatouille la joue. Le parfum l'oppresse, et le rouge des lèvres se moque. « Elle va être trempée, la Thérèse !» Jean aimerait ne faire attention à rien d'autre qu'à la grosse femme sous le porche. Au fond de lui, il voudrait ne pas l'avoir vue, ne pas être ici, ne pas avoir à penser à Thérèse. Que ce soit elle ou non, il se sent piégé. Il n'arrivera plus à s'en détacher. Il la regarde aller et venir, les bras croisés serrés contre sa poitrine. Elle s'avance, jette un coup d'œil de chaque côté de la place, se remet à l'abri. À cette distance, dans cette pénombre de fin d'averse, ce pourrait être n'importe quelle femme sortie en vitesse sans prendre le temps d'enfiler son manteau. Un passant, occupé à refermer son parapluie, la bouscule. Elle rattrape de justesse son dossier, s'y cramponne, le cale sous son bras. À grand renfort de gestes menaçants, elle invective l'homme, qui s'incline, une main sur le cœur. Peine perdue, elle continue à s'agiter. Cette façon de remuer en tous sens, de plier les genoux, de secouer la tête, de pointer un index menaçant, Jean n'a pas besoin du son, l'image suffit. Aucun doute n'est désormais permis, c'est une colère digne de Thérèse. C'est Thérèse. Jean a un mouvement de recul qui, à son corps défendant, se transforme en élan vers elle. Le temps qu'il paie sa bière et qu'il sorte, la femme s'est engouffrée dans une voiture. Jean traverse la place en courant, fait de grands signes. Déjà, l'auto a fait demi-tour et s'éloigne. L'homme qui a provoqué, bien malgré lui, la colère de Thérèse, sourit à Jean. « Dites donc, pas commode la bonne femme. Vous la connaissez ?»«
Je ne sais pas. Enfin, oui, peut-être, ma... »
Le mot n'est pas sorti. « Sœur. Demi-sœur. Comment prononcer demi-sœur ? Quel drôle de mot. » Il n'a jamais pensé à elle comme à une sœur, n'a d'ailleurs jamais pensé à elle depuis 20 ans, ni avant. Ils n'ont jamais vécu dans la même maison. Quelques images lui reviennent, des images de dimanche. Chez ses parents, Thérèse et son fiancé, un baiser surpris dans le jardin. Chez elle, Thérèse et son mari, sa ribambelle d'enfant. Thérèse et son dossier. Thérèse qui dit « Depuis que je m'appelle Kornilov, comme lui,
le fils de Boris, comme on disait au village.